is in my division. Tech flow.
So my boss Mac 11 won't get to realize we're down in the slum. Can't get off the bump. Itchy, itchy, and it's getting well, well sticky.
Chase you out of earth.
Il est 20h02 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, bienvenue, on est le 11 février, bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Voilà, je vais démarrer tout de suite en présentant l'équipe de soir. Comme vous l'entendez, c'est pas Florian qui présente, il ne peut pas être là pour cause de maladie, il me semble, une fois de plus. C'est donc moi qui vais présenter ce soir et je vais démarrer à ma gauche par Amaury qui revient du ski. Salut Amaury.
Salut Faustin.
Hop, le micro c'est mieux. Celui-là, voilà, c'est bon.
On est bon. Et oui, je reviens du ski, un beau week-end pour ma part, enneigé, pluvieux à la fin, mais bon, ça l'a fait, le temps était plutôt pas mal. Ouais. On a pu skier, tomber parfois, sans se faire trop mal.
Ça fait partie
donc,
du jeu.
Donc voilà, on est bon et on a quand même pu regarder un petit peu les principaux événements sportifs du week-end, donc tout est bon.
Bah oui, surtout on va garder là un œil sur la fin du match entre Brest et Paris. On vous tiendra au courant s'il y a des buts. Actuellement, il y a 3-0 pour Paris.
2-0, le but a été annulé.
2-0, le but a été annulé, c'est vrai. Et on est à la combienième minute, les gars ?
57e.
57e, voilà. Donc il nous reste une bonne trentaine de minutes à vivre en direct. Sinon, avec moi, Mathéo qui est là ce soir. Salut Mathéo.
Bonsoir Faustin, bonsoir à tous. Bah écoute, moi c'est pareil, ça va très très bien, ça a été un gros week-end de sport, surtout dimanche, hein. On a consommé pas mal de Ligue 1, le Super Bowl, un peu des FA Cup aussi avec la défaite de Liverpool, je suis arrivé après le but mais c'était un match assez intéressant, donc voilà, gros week-end de sport pour ma part et très content d'être ici ce soir encore une fois.
Parfait, deux émissions d'affilée pour
c'est vrai, attention, on va battre un record.
Cédric est avec moi aussi, salut Cédric.
Et salut tout le monde.
Ça va, bon week-end?
Ouais. Il sera encore meilleur ce week-end.
Pourquoi ça?
C'est la Coupe de France. Ah bah, un hockey, forcément.
Forcément, la peut-être, finale.
Peut-être le premier titre des Ducs de la saison, en tout cas, on y croit.
On y croit. On y croit fort. Peut-être que on parlera des Ducs un moment dans l'émission. Tu nous en diras plus. On va commencer avec le sommaire de cette émission au programme. Les actualités locales avec le SCO, qui lui aussi a gagné en Coupe de France. On parlera un peu de tous les clubs angevins et on enchaînera ensuite avec la pause musicale. Puis les actualités internationales qui ont été assez riches. Cette semaine, on va démarrer par le basket et le AB qui enchaîne deux victoires cette semaine. La première contre Poissy sur le score de 80 à 78. Enfin, une fin de match qui tourne en faveur des Angevins, ça fait plaisir. Et la seconde contre Lorient, 69 à 64. Ces victoires leur permettent de remonter deux places au classement et ils sont plus si loin du top 7. C'est la première fois de la saison que le AB enchaîne deux victoires en une semaine. On peut espérer une bonne dynamique et une remise en forme des joueurs. Pour l'UFAB, c'est une défaite malheureusement contre Montpellier à Jambouin, 66 à 76. L'équipe descend à la 6e place et le top 4 va être compliqué à accrocher vu la fin de calendrier qui est assez difficile, pas mal de clubs du haut de tableau. Donc on espère quand même que ça va le faire pour les playoffs, même si pour l'instant ça a l'air d'aller. Du côté de Cholet maintenant, tout roule pour Cholet avec à nouveau deux victoires cette semaine. La première en Europe contre le Dynamo Sassari, le club italien, 78 à 75. Et la seconde en Betclic Elite contre Dunkerque, 73 à 70. Et il reste plus que jamais premier du classement de Betclic Elite. On va maintenant aller sur le foot avec le SCO directement. Qui s'est qualifié 3 buts à 1 en Coupe de France contre Strasbourg. Voilà un match qui a été assez maîtrisé, j'ai envie de dire, par le SCO. Est-ce qu'autour de la table, vous avez pu le regarder?
Moi personnellement,
c'est quoi la Coupe de France?
Pourquoi?
Ah non, mais on en parle. C'est censé être un truc qui est accessible à tout le monde. Maintenant, tu veux de la Coupe de France, tu payes.
Pourquoi?
Là, il y avait Kubelin qui diffusait le match.
Ah oui, d'accord. Oui, je ne comprenais pas comme ça. Je comprenais aller voir au stade.
Ah oui, non. Parfaitement normal. Voir au stade, ça, c'est tout à fait normal. Puis...
C'est vrai que souvent, c'est sur France 3. Mais
de base, historiquement, c'est une compétition qui est censée être accessible justement pour diffuser et promouvoir le foot gratuitement à la télé. Et au final, t'avais un match et encore. On choisit l'affiche pour la diffuser, donc non, ça devient compliqué même pour la Coupe de France de la suivre, quoi.
Ouais, c'est vrai que il y avait aucun match sur les chaînes nationales. C'est vrai que c'est dommage, mais on a quand même vu un beau match du SCO, mine de rien, si on tourne sur le jeu. Du coup, la physionomie du match, c'est le SCO qui marque le premier but, qui encaisse assez rapidement l'égalisation, mais qui vite arrive à repasser devant et ensuite est dominé, j'ai envie de dire, quand même la plus large partie du temps, mais arrive à mettre un troisième but et clouer le suspense vers la 80e minute avec un but de El Melali. Et surtout, ce qu'on peut retenir aussi, c'est un doublé d'Espan Le Pol. Mathéo, est-ce que
qui s'installe de plus en plus, hein, forcément à Angers, ça va être difficile de le garder cet été, hein, qu'on se le cache pas. Esteban Le Pol, c'est une belle surprise. On en a beaucoup parlé dans l'émission aussi dès son arrivée, d'Esteban Le Pol. C'était un joueur qui nous intéressait particulièrement, dont la trajectoire nous parle également, hein. C'est un joueur qui vient national, qui a percé un peu sur le tard entre guillemets. Il est pas si vieux que ça, Esteban Le Pol, mais il a pas 18 ans non plus. Il sort un peu de nulle part. Donc un joueur qui nous a beaucoup intéressé et surtout qui a une marge de progression assez énorme, assez impressionnante. Il est passé de la nationale à la Ligue 1 en un an. Et il est vraiment très très bon. Et là pour le coup, encore une fois, je le répète à chaque fois, mais Angers a trouvé son buteur parce que justement il a une palette assez intéressante, plus intéressante que Nian qui avait mine de rien à la moitié de la première partie de la saison était aussi assez intéressant, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est beaucoup plus limité que Esteban Le Pol, qui en plus est plus tranchant. Et là sur cette rencontre, ça fait du bien parce que gagner contre Strasbourg, qui est une des plus belles équipes de Ligue 1 cette saison, que ce soit avoir joué, que ce soit dans les profils et pourquoi pas dans les surprises que cette équipe-là peut créer, c'est assez bien. Et surtout ça montre que la force mentale du SCO, elle est présente et elle continue d'être présente. Et ça, pour le coup, on l'a vu un petit peu ce week-end aussi, notamment en avant-match, avec cette vidéo qu'on a tous vue du préparateur physique du SCO face à Marseille. On va pouvoir revenir aussi sur cet épisode-là, parce qu'il va falloir en parler. Mais voilà, cette équipe du SCO, je pense qu'elle est prête à se maintenir en Ligue 1 aujourd'hui. Et c'est encore une victoire qui rassure à ce niveau-là.
Ouais, on peut espérer. Tu voulais dire quelque chose à Maurice ?
Non, mais sur ce match-là, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que le SCO a vraiment su faire le dos rond quand Strasbourg dominait, et surtout a réussi à piquer quand il fallait à chaque fois. Donc dès l'ouverture, dès le début du match, derrière ils prennent un but, ils arrivent directement à remettre un but, et après à la fin du match, ce troisième but qui vient clôturer. Mais ils ont réussi à, on en parlera après du match face à Marseille, mais à vraiment piquer quand il fallait et bien gérer leur contre-attaque, ce qui n'a pas été le cas sur l'autre match, on va en parler juste après. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé cette manière de gérer ces contre-attaques pour le SCO et d'être efficace. Donc voilà.
Moi, j'aime bien les plans de jeu du jeu. Pour pas, enfin, voilà, c'est pas un jeu de mots. Hein, c'est vraiment juste que j'aime bien les plans de jeu et surtout ils sont assez bien réalisés par les joueurs à chaque fois. On sent que vraiment il y a une écoute du coach et ça, c'est vraiment le truc le plus important peut-être dans le football aujourd'hui et ce que beaucoup d'équipes n'arrivent pas à faire.
Ça pique très bien à son effectif et à son équipe et bah comme on le voit en ce moment, ça marche bien. On va se projeter sur les quarts de finale vite fait parce que du coup le SCO on le sait affrontera Reims vainqueur de Bourgoin-Jallieu en 8e de finale au pénalty. On a cru un peu à l'exploit, moi je sais qu'avec mes potes on était devant la télé à regarder la séance de pénalty à se dire allez Bourgoin-Jallieu, mais bon malheureusement ou pas c'est Reims qui tombe. Ce sera à Raymond Kopa le 25 février.
Au moins c'est à domicile.
Voilà, c'est ça. En plus, ouais. On reçoit un match de Coupe de France. Donc 25 février à domicile à 21h, juste après Génération Sport, évidemment.
Il n'y aura pas de réclamation de la part de Reims. Ça, c'est beau.
Pourquoi ? Il n'y aura pas de réserve.
De réserve.
Ah oui, il n'y aura pas de réserve. Pour match contre Lyon.
Ouais, c'est ça. On reviendra peut-être un peu dessus aussi en fin d'émission. On fait des teasings.
Mais du coup voilà, on peut espérer évidemment une victoire.
Ouais, bien sûr, c'est Reims. Un adversaire facile, enfin facile entre guillemets. Hein, c'est
jouable.
C'est jouable, on va dire facile dans la forme actuelle, parce que Reims c'est une des pires équipes de Ligue 1 sur les derniers matchs, notamment en 2025. C'est vrai que le club descend et n'en finit plus. C'est encore une fois une équipe qui a fait 0-0 contre Bourgoin-Jallieu, donc voilà, la perspective de victoire elle peut être aussi assez importante. Le SCO peut le faire, je dirais même peut-être que le SCO est un peu favori vu de l'année 2025. Il faut pas partir de ce principe là parce que sinon ça va être vraiment compliqué sur le match. Il faut partir du principe que Reims est favori et qu'ensuite on joue l'effet de surprise aussi sur des joueurs qui sont bien sûr peut-être individuellement meilleurs que ceux qui sont au SCO de base. Je pense que ouais, le SCO peut aller la chercher, peut avoir un match tranquille et venir se qualifier pour des demi qui seraient assez exceptionnels.
Ouais, avec un tableau quand même assez ouvert, avec de l'autre côté seulement Brest et Paris en équipe de Ligue 1.
Donc Paris, les boules chaudes.
Ouais, exactement. On va dire que si ce quart de finale est remporté, on va espérer de ne pas jouer contre Paris en demi-finale et d'espérer après une finale.
Ça serait bien pour le club, ouais.
Comme c'était, j'ai oublié l'année de la finale Coupe de France, c'était
2017.
Ouais, 2017, j'aurais dit Paris. Ouais. Voilà.
D'ailleurs, en parlant de Paris, ouais. On a Paris qui vient de mettre le troisième contre Brest avec une sorte de cafouillage où Ousmane Dembélé en profite et il va marquer un doublé pour Dembélé ce soir encore.
Bah voilà. Dembélé qui s'est révélé, là. Ça y est, c'est sa saison. Pour l'instant, il est bien parti. C'est
impressionnant, son année 2025.
Un des meilleurs joueurs d'Europe. Hein,
oui, très clairement. Ouais. Ouais.
Voilà. Si Dembélé, on lui rajoute la finition, évidemment, c'est ce qui lui manque depuis tant d'années. Aujourd'hui, ça fait mouche et but sur but.
En parlant de Paris, on va aller à on va parler de Marseille maintenant, c'est tout trouvé, car le SCO recevait Marseille ce week-end dimanche et s'est incliné 2-0, un match où ils ont été au contraire largement dominés et n'ont pas vu le jour les SCOistes et il me semble que Amaury, tu as pu voir le match.
Ouais, le SCO qui avait son plan de jeu, c'était on reste solide, on essaye de tenir le coup, mais et on frappe en contre. Malheureusement, ils ont essayé de tenir, mais ils ont fini vraiment par subir énormément et ils n'ont pas réussi à être à l'aise en contre, à mener leurs offensives au bout, en perdant même très rapidement le ballon des fois où ils avaient de l'espace pour se projeter et une passe ratée. En fait, les Marseillais récupéraient le ballon au milieu de terrain. Donc ça a été compliqué. Derrière, on subit. Et en deuxième mi-temps, il y a le physique. Hein, quand on a 20% de possession de balle, je pense que ça fatigue énormément. Et le but marseillais vient sur un corner. J'ai envie de dire malheureusement pour le SCO, parce que dans des matchs comme ça, il faut être solide sur les phases de coup de pied arrêté. Et donc ce but-là, derrière, ça fait 2-0 parce que t'es obligé de te découvrir un petit peu si tu veux aller chercher quelque chose. Et donc il y a ce deuxième but. Mais je trouve ça dommage pour le SCO de prendre ce but sur un corner. Parce que ils avaient essayé de tenir ce 0-0. Maintenant, quand on subit autant, c'est souvent le cas en fin de match.
On va dire que un 2-0 contre Marseille, ça aurait pu aller, mais là, il n'y a pas du tout la manière et on peut.
Il n'y a pas de frappe cadrée. Ça, ouais, on a voilà. La seule occasion, j'ai envie de dire, c'est en toute fin de match là où Rouli va sortir le duel. C'était contre Stenian.
Stenian. Ouais.
Et où Rouli fait un superbe va chercher la balle dans les pieds de Nian.
Nian a beau raté.
Oui, il y a les deux.
Dans ce sens-là, il faut le prendre, même si oui. Rouli a bien joué son coup.
Mais oui, c'est vrai que c'est un beau raté de Nian. Maintenant, il y avait 2-0, il restait quasiment plus de temps. C'est presque anecdotique.
Oui, mais 2-1, ça aurait pu être pas mal. C'est vrai, après, le SCO aurait été là chercher, comme vous l'avez dit, avec pas du tout la manière. Ça a été aussi le plan de jeu. Hein, c'était jouer avec ses armes. Enfin, c'est une équipe de Marseille qui, là, est vachement impressionnante aussi. C'est vrai qu'on a là deux clubs en Ligue 1 qui sont plus impressionnant que les autres, Marseille et Paris en ce moment, c'est assez bon. Donc forcément, le SCO venait avec ses armes, venait avec de la confiance certes, mais quand même peut-être un plus gros déficit technique que Marseille. Et surtout, ça a été un duel assez impressionnant, surtout vu du. Alors moi, j'étais pas au stade, mais vu au moins de mon écran de télévision, ce duel de la largeur aussi. Le fait d'avoir vraiment une équipe qui utilisait toute la largeur, donc Marseille, et une équipe du SCO vraiment centrée. Et c'était le plan de jeu, hein, de les laisser venir par les côtés, et ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça a fonctionné un temps, mais Marseille a vraiment été très dangereux sur cette rencontre. Et offensivement, le SCO n'a pas donné grand-chose. Le milieu de terrain a été assez bien muselé aussi, il faut le dire, par des Marseillais qui ont vraiment fait un match vraiment exceptionnel. Match très complet, ouais, exactement, à ce niveau-là. Mais le SCO peut s'en mordre les doigts, mais encore une fois, c'est face à une grosse équipe qui est un peu en rouleau compresseur en ce moment. Donc, par rapport au match aller où on a eu le 1 partout, où le SCO l'a fait, c'était face à une équipe qui là aussi fonctionnait, mais se faisait peur. Hein, on a eu juste après le 4-0 contre Auxerre que Marseille a pris. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le club fait plus d'erreurs comme ça. C'est dommage pour le SCO. Mais c'était mission impossible.
C'était pas le moment de jouer Marseille, quoi.
Non, exactement. Non.
Après, quand on dit Marseille en mode rouleau compresseur, Marseille restait sur une victoire face à Lyon. Mais avant, Marseille restait sur une défaite face à Nice, un match nul contre Strasbourg. Donc ils sont sur deux gros matchs de suite. Maintenant, rouleau compresseur, je suis pas d'accord avec toi non plus sur le mode rouleau compresseur de ces derniers temps.
Bah après le mot rouleau compresseur, il veut pas forcément dire victoire. Là dans les deux matchs, on a une défaite face à Nice qui fait vraiment une belle saison de Ligue 1, qui d'ailleurs est sur le podium, qui est vraiment un vrai challenger et qui aussi s'est un peu fait bouffer entre guillemets par l'Europa League, qui sont pas du tout suggérés et qui du coup créent un problème mental déjà des joueurs et puis au-delà de ça un problème sportif parce que forcément t'avais un match en plus à la semaine. Et puis Strasbourg, qui est une équipe que j'aime beaucoup, dont j'ai fait l'éloge il y a quelques minutes. Donc voilà, mais Marseille dans le jeu, c'est vraiment beaucoup mieux qu'il y a 3-4 mois.
D'accord.
Les recrues sont arrivées aussi aujourd'hui, donc c'est aussi de la projection. On parlait de rouleau compresseur, ça sera aussi pour plus tard. C'était le premier match de Bennacer, le deuxième de Goury qui a encore fait deux passes décisives. C'est deux joueurs qui ont été vraiment impressionnants. Et donc Marseille peut se projeter avec de belles perspectives à ce niveau-là, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme-là, qui est à la fois adapté et inadapté.
Non mais parfait. Parfait alors.
Et un autre souci qu'ont tenu à souligner les joueurs, notamment Florent Hanin en interview après le match, c'est le manque de supporters angevins. Avec, il disait, une domination, on voyait limite plus de Marseillais dans le stade que d'angevins. Cédric, est-ce que tu trouves que c'est un réel problème de voir ça dans le stade à Ancoba?
Que le SCO produit du jeu. Dans ces cas-là, il y aura du monde qui va venir. La solution, elle vient de là. Elle vient de là, déjà. Tu regardes le début de saison, t'as pas envie d'aller voir les matchs, franchement. Tu prends les saisons précédentes, t'avais pas envie d'aller au stade. Deuxième chose, faut changer aussi l'image du club. Tant que ton président sera toujours dans des histoires louches, eh ben les gens n'ont pas forcément envie de donner de l'argent à un président comme ça. Ensuite, tu joues contre Marseille. Tu sais forcément, c'est un match gala, comme Paris, comme Lyon, comme Saint-Étienne. Enfin, c'est des clubs historiques. Et on sait quasiment que Marseille, Saint-Étienne, en termes de clubs à l'extérieur de supporters, allez, il y a quasiment dans toutes les villes, tu peux réussir à trouver un club de supporters lié à ces clubs-là. Je pense que c'est vraiment c'est un faux débat. En plus, il est comme nous, il le sait que le public en juin, et quelle que soit la discipline, il est dur à bouger.
C'est vrai.
Tu regardes, il y a aussi un problème dans ces cas-là, c'est est-ce que le COP du SCO donne aussi les moyens de faire changer les choses? Donc je trouve ça un peu dommage de tout mettre sur les gens qui viennent pour un match. En plus, ces matchs, enfin, tu viens une fois parce que c'est sûr, tu payes 81 €, je crois que c'était les places à peu près pour venir voir Marseille.
Ouais, potentiellement, peut-être pas dans la semaine de Jean-Bouin, ça devait être un peu
cher,
moins, mais.
Plus cher,
ouais, je pense, ouais, à Saint-Léonard peut-être, mais.
Ouais, enfin, en tout cas, c'était pas donné. Et je serais pas surpris que ça peut-être monte un peu plus, parce que quand on sait des fois contre Paris. À un moment, je trouve ça, c'est une fausse excuse. De dire, oui, mais il y a plus de supporters. Bah oui, mais quand tu joues à l'extérieur, il y a plus de supporters. Enfin.
Ouais, mais c'est l'avantage de jouer à domicile, c'est que tu dois avoir un support des tiens.
Il y a plein d'endroits où des fois, tu sais, bah, c'est tes propres supporters qui te retournent contre toi et tu te retrouves dans la même situation. Donc je trouve ça un peu dommage d'attaquer sur ce match-là, particulièrement en plus. Voilà, c'est s'il faut reprocher un truc, c'est tout au long de la saison en fait, en termes de supporting, et puis bon, arrêter de les traiter de footix, comme j'ai pu voir dans certaines déclarations, ouais. Pas forcément des joueurs ou du club, mais notamment de gens qui font partie de COP. Je généralise, hein, pas que le COP, le SCOM, parce qu'il y a beaucoup de clubs aussi de supporters anti-marseillais, entre autres, qui voilà traitent ce type de public footix. Le foot, c'est un sport voilà accessible à tout le monde. Donc forcément, je vois pas pourquoi on devrait forcément supporter le club de sa ville quand on y vit, quoi.
C'est vrai, mais moi je trouve quand même que le SCO, par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure, et en ce moment surtout, en assez bonne forme. Là, c'est malheureux cette défaite, mais avant il y a eu des bons résultats, il y a eu plusieurs victoires, il y a eu la victoire en Coupe de France juste avant. Ça pourrait attirer du monde, et ça attire quand même vachement plus de monde. Si on se rappelle la saison catastrophique de la défaite, là il y avait personne, et là personne disait je ne comprends pas pourquoi il y a personne, mais là quand même les affluences sont meilleures qu'avant, et je trouve ça, moi je suis pas tout à fait d'accord avec la déclaration de Florent Hanin, mais je dirais qu'il a pas tout à fait tort non plus, et que premièrement le public du SCO n'est pas un public qui va forcément beaucoup encourager. Le COP est assez petit, la tribune du COP est assez petite, il a peut-être pas beaucoup de moyens. Et quand on voit forcément face à une équipe de Marseille arriver qui remplit finalement le parquage extérieur, c'est compliqué. Et c'est peut-être justement là aux familles qui viennent sur le côté, sur les autres tribunes que dans le COP, parce que c'est compliqué d'arriver avec des enfants dans le COP, et de peut-être d'essayer de parfois mettre un peu plus de voix, parce que le COP encourage aussi le stade à chanter avec lui, et c'est des chants qui sont très peu repris malheureusement. Donc peut-être c'est une ADN du club, une ADN que le club n'a pas, et c'est assez malheureux.
Mais pour moi, là où il y a un faux débat, c'est quand j'entends des gens dire les gens sont venus parce que c'est un match de gala. En fait, moi j'ai l'impression que il y a peu de gens qui sont venus supporter le SCO parce que c'était Marseille. C'est plus les gens qui sont venus, c'est des supporters de Marseille qui ne peuvent pas aller au Vélodrome tous les week-ends parce que ils habitent beaucoup trop loin, qui ont l'occasion de voir ce match-là et qui en fait dès que les places sortent, ils sautent sur l'occasion. Mathéo, je pense que t'es d'accord, quand Lyon vient à Angers, si t'as l'occasion, tu sautes sur les places dès que ça ouvre.
Non. Alors du coup oui et non, parce que moi j'y ai pas été pour justement parce que j'avais pas mes places en parkage, donc j'ai décidé de pas venir parce que je voulais pas être dans le stade par respect aussi pour les gens qui étaient autour, mais je comprends ce que tu veux dire.
Mais parce que moi je sais
dans tous les cas on a aussi des, parce que moi j'ai ce choix là en tant que qu'étudiant, en tant que aussi Lyon est un club moins représenté sur le territoire sans doute que Marseille, donc forcément il y avait un peu de place, tout ça, c'est moi qui ai mal goupillé la chose, mais pour Marseille, c'est pas vraiment le cas, et on a plein de pères de famille, de gens qui ne manquent pas de moyens financiers, juste ne peuvent pas le faire concrètement, et ont envie de faire découvrir leur club aussi à leurs enfants, à leurs amis. On a vraiment tout un tas de personnes qui sont venues au stade. À l'époque de
93, entre autres, hein, ça y joue vachement. Ça,
bien sûr. Bien sûr, et donc on a tout un tas de personnes qui sont venues et qui eux pour le coup ne pouvaient soit pas aller en COP, soit tout simplement avaient envie d'être juste dans un endroit plus calme, parce qu'il faut savoir que le COP aussi tu n'as pas le droit de filmer, voilà, t'es obligé de chanter, normalement t'arrives un peu avant, et puis oui c'est un climat qui est beaucoup
je sais que moi un match que j'ai fait il y a trois ans, je crois, avec le COP marseillais, ça a fini avec des piles de lancers entre Angevin et Marseillais dedans. Je pense que les pères de famille, ils n'ont pas forcément envie de prendre ces risques-là.
Exactement. Mais je ne parle pas que des pères de famille, là. Je parle juste des personnes qui n'ont pas envie d'être dans des COP, qui supportent leur club, mais qui ne supportent pas leur club à ce point-là ou qui n'aiment juste pas ça. Hein, attention. Mais du coup, je peux comprendre là le cas présent, surtout pour un club comme Marseille aujourd'hui. Et puis voilà, mais après, dans un sens, oui, c'est un débat qui a deux faces, je dirais quand même. Moi, je comprends totalement le point de vue des joueurs aussi. Hein. C'est vrai que le foot, à la base, c'est quand même quelque chose de populaire. Donc forcément, quand t'es un joueur, tu penses aussi à ce que tu donnes aux gens. Je pense que, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut sur les salaires, sur ce qu'est en train de devenir le football, l'industrie qu'il est en train de devenir. Mais faut pas oublier que, voilà, je pense que y a aussi ce don en fait de performance et de bonheur entre guillemets, ou voilà, que peut procurer le football aux gens. Les joueurs en sont conscients, et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui bossent beaucoup, qui bossent dur, et là ça c'est sans doute le cas pour le SCO cette saison. Ils ont envie de faire plaisir aussi, forcément eux sur le plan comptable sont très contents, puisque l'objectif c'est bien sûr le maintien, rester en Ligue 1. Il y a cette visibilité supplémentaire pour plein de joueurs, on le voit avec le pôle, il doit être très content aujourd'hui forcément de ce qui se passe pour lui, mais il y a plus que ça, et forcément je comprends que les joueurs soient déçus. Après c'est un problème qui est plus profond pour les supporters, c'est que l'ancrage territorial du SCO, il est très récent aussi. L'appellation SCO, elle existe depuis longtemps, mais là on l'a vu avec tous les clubs qu'on a reçus qui ont cette appellation, qui sont pas liés au SCO, hein, mais qui ont cette appellation aussi. Donc le SCO sur le territoire, ça veut dire beaucoup plus. Mais on n'a pas vraiment cette culture du football profonde comme on peut l'avoir juste à côté, à Laval par exemple, où dès que je croise des gens qui sont de Laval, ils supportent Laval et il n'y a pas d'autre équipe, quoi. Donc, et c'est vraiment supporter plus que chez nous. Voilà, mais après, comme à chaque fois avec le SCO, il y a plus de supporters quand ça marche. Aujourd'hui, ça marche, tant mieux. Les stades sont remplis, c'est très très bien. Le COP, moi, je suis pas d'accord par rapport au COP de la Butte, parce que je trouve que le COP de la Butte fait aussi son travail plutôt bien, quand même, avec les moyens qu'ils ont aussi. Hein, faut mettre en perspective le club que le SCO représente et ce que les supporters aussi représentent. Donc voilà, mais c'est un problème où chacun a plus ou moins raison finalement.
C'est un peu voilà, un débat sans fin finalement.
Un peu. Après, il y a des perspectives d'avenir que tu peux donner. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus attirés par le SCO, parce que le SCO va plus chercher local aussi, forme vrai. Plus. Donc a plus de plus en plus cet ancrage justement. Mais c'est un problème à régler, que tu peux régler, qui est pas du tout insurmontable, mais qui existe aujourd'hui. Et je peux comprendre le point de vue des joueurs comme le point de vue des supporters présents au stade.
Voilà, maintenant qu'il est posé un peu sur la table, que Florent Hanin en a parlé, peut-être que ça va être rediscuté dans les plus hautes instances du club.
Ce serait bien, parce que ça fait longtemps que nous on en parle aussi, et ce serait super.
On pourrait essayer de recevoir des membres du KDLB.
Ce serait intéressant.
On avait déjà reçu les membres du COP des Ducs. On pourrait essayer de recevoir des membres du KDLB. Tant qu'à faire, on va enchaîner avec les Ducs, qui n'ont tout simplement pas joué depuis leur victoire contre Nice.
Ah, si.
Ils ont joué ?
Ils sont en train de jouer, oui.
C'est vrai, j'y étais là, mais ils reprennent du service ce soir contre Briançon, c'était marqué.
À Briançon. Et il y a 1-1 déjà.
1-1, bah voilà. On vous tiendra au courant là aussi du score au fur et à mesure de l'émission.
Match de préparation du coup pour le final, je pense que ça va peut-être faire tourner un peu plus. On va peut-être tester de nouveaux joueurs pour justement anticiper les futures blessures qu'il pourrait avoir sur ce match-là et qui coûterait aux joueurs forcément d'aller jouer une finale.
Ouais. Donc, la finale qui est On va le rappeler.
Dimanche, donc à Paris-Bercy, l'horaire.
Ça doit être 21h.
Non.
C'est l'après-midi.
Ça aurait été trop beau, ça serait passé du coup en prime time sur l'équipe. Non, ça va être, je crois, vers 15h.
Ok.
Puisque la finale va être diffusée sur l'équipe. Plutôt bien.
Très bien, ça.
Sauf qu'elle sera en différé.
C'est assez étrange.
Ben si, biathlon. Ouais, donc priorité directe.
Donc priorité.
Je sais pas.
La dernière fois qu'on a gagné la Coupe de France contre Rouen, ouais. C'était à 20h.
Ouais,
c'était le soir.
Mais là, c'est du coup après-midi. Un peu étonnant qu'il n'y ait pas plus de justement de diffusion. J'ai rien vu passer.
De communication par... même dessus.
Genre. Communication aussi. Ouais.
Moi qui suis, je pense tous, on suit pas mal ce qui se passe sur le sport à Angers, des comptes, etc. Et j'ai vu quelques petites choses passer, mais pas non plus tant que ça. Et c'est vrai que si on n'en parlait pas ici, j'aurais presque pu le louper. Alors que c'est quand même important pour le sport Angers.
Ouais, mais ça c'est un peu le souci avec le hockey. Hein. Tu sais que là il y a eu des matchs pareil de l'équipe de France. Ça passe sous le radar. Ça,
alors que les Ducs ont une très bonne image d'Angers, hein, pourtant.
Ouais. Tous les clubs.
Le deuxième sport après le foot qui est
sur le
Angers.
C'est 15h la finale.
15h dimanche. Bah voilà, le rendez-vous est pris à Paris-Bercy.
On va espérer quand même qu'une antenne locale comme le France 3 Pays de Loire va pouvoir la diffuser. Quoi. Je sais que ça s'est déjà fait par le passé. Ce serait bien parce que je trouve ça dommage pour les supporters qui auraient voulu le voir justement dans des lieux où ils peuvent se réunir. Parce que c'est normalement la finale elle est à guichet fermé, donc tout le monde n'a pas eu ses places. Il y aura pas forcément que des fans en fait des deux équipes. Hein, il y a aussi des fans tout court de hockey qui en profitent
évidemment
pour aller voir. Et j'espère quand même une petite diffusion. En direct, ce serait quand même mieux que d'attendre vers, je crois, en plus c'est vers 18h, donc on aura déjà les résultats. Et c'est vrai que, si Angers est champion de France, forcément, tu vas avoir envie de regarder le match.
Mais bon.
S'il n'y a rien derrière, tu dis, c'est bien, on regardera un highlight sur Internet. C'est un peu dommage pour la promotion du sport.
Ouais, c'est dommage et on espère du coup que ce sera diffusé en direct ailleurs. On va enchaîner sur
Faut qu'on arrête d'en parler parce que là, ils viennent de se prendre un deuxième par Briançon.
2-1 donc à Briançon pour les Ducs. On enchaîne avec le Hand, le SCO. Le SCO Hand, nouvelle défaite pour eux contre Dijon, 26-23. Toujours pas de victoire cette saison et toujours dernier au classement à la mi-saison. La relégation semble quasiment inévitable, Amaury.
J'ai envie de te dire oui, mais sur ce match, parce que Dijon est leader ex aequo du championnat. Et le SCO menait à la mi-temps et a réalisé une première mi-temps très 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 bonne. Et même la deuxième mi-temps était plutôt bien. Maintenant, l'expérience et surtout le talent des Dijonais a parlé en deuxième mi-temps. Mais alors moi, j'ai pas vu le match, mais je connais des personnes qui y étaient. Et en tout cas, qui m'ont rapporté que c'était vraiment l'une des meilleures performances du SCO depuis le début de l'année. Et donc, peut-être un petit peu d'espoir après une longue période de pause hein, où ils ont pu travailler avec le nouveau coach hein, aussi, il doit avoir 3-4 matchs à la tête du club. Donc, il y a encore besoin de travailler et cette période a peut-être permis au SCO de trouver des nouvelles couleurs. Donc ça a pas suffi pour la victoire face à Dijon, mais c'est en même temps c'est pas forcément sur ces matchs-là on attend les premières victoires. Non, c'est vrai que les premières victoires, il va falloir qu'elles viennent très vite tout de même.
Est-ce qu'il reste on est pile à la mi-saison, il me semble.
J'ai pas l'info exactement.
Il y a 15 matchs joués, il y a 15 équipes donc.
L'info que j'ai eue, par contre, alors j'ai pas envie de dire que c'est bien, mais c'est que les clubs de N1, on le sait, c'est compliqué pour monter en pro. Et à l'instant, aucun club de N1 n'a le budget pour monter en pro. Maintenant, s'il y a un sponsor qui arrive et qui décide de mettre de l'argent dans un club, peut-être qu'ils pourront. Mais s'il n'y a aucun club de N1, le SCO aura beau terminer dernier, ils resteront en deuxième division. J'ai pas envie que ce soit de cette manière-là qu'on arrive à se maintenir. Ce serait bien d'aller chercher une bonne deuxième partie de saison. Maintenant, ça c'est l'info que j'ai eue. Pour l'instant, c'est comme ça. Maintenant, ça peut aussi évoluer au cours de l'année.
Est-ce que nous aussi, on va avoir le budget au final?
On aura le budget. Le SCO aura le budget.
S'il y a les sponsors, il y a le budget. normalement.
Ils ont pas de problème financier.
C'est un peu triste de se rendre compte, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça risque de devenir une ligue un peu fermée.
C'est le problème. C'est le problème des sports un petit peu.
Ça empêche surtout des beaux projets d'émerger aussi, c'est ça le sport. Ouais. On le voit de plus en plus avec plein d'équipes. À Brest en Ligue des Champions, forcément, on y pense, mais c'est vrai qu'il y a des projets sportifs qui sont bloqués à un échelon inférieur et c'est aussi dommage.
C'est des clubs qui montent de niveau. Là, moi, je pense à, par exemple, l'Union Sud Mayenne, qui est un club qui est monté de région et tous les ans, pendant 5 à 6 années de suite, ils sont arrivés. Aujourd'hui, ils sont en N1, donc pas encore en N1 élite pour pouvoir monter, mais c'est un club qui, vraisemblablement, même s'il continue à monter, ne pourrait jamais, si ce n'est qu'il y avait un investisseur qui venait, parce que ils ont pas du tout les budgets pour. Et il y a une très grosse différence entre le monde pro et le monde amateur au handball, en tout cas sur le nombre de joueurs professionnels à avoir, etc. Et cette différence est fait que il faut pas qu'un sponsor supplémentaire, et c'est là que ça vient dur.
Mais on verra du coup si le score va décrocher une victoire
au moins,
si c'est la fin de la saison.
Ce serait quand même très très bien parce que
ne serait-ce que pour l'image du club.
Voilà.
Une saison sans victoire.
Non mais une deuxième partie de saison meilleure, on signe déjà pour ça. Voilà, avec quelques victoires et du beau jeu.
Exactement. Et on espère qu'ils réussiront à se maintenir par les points et non pas par les finances. Un autre score, le score rugby qui a gagné ce week-end 33-19 contre Pithiviers. Ils sont premiers ex-aequo de Fédéral 3 avec Bagneux à 49 points. Et il ne reste que 5 matchs avant la fin de la saison. On peut donc espérer un sacre, je veux dire, en Fédéral 3 et potentiellement une montée pour les rugbymen angevins. On va passer à la pause musicale tout de suite. On va s'écouter du Alpha One, ça va être APDL sur le 101.5 FM.
Si tu fermes les yeux quand je rappe, tu vois New York. J'suis taillé dans du bois d'ébène, ces rappeurs sont taillés dans du bois de Boulogne. J'ai le recul, la bonne cadence, les grandes capacités. Alpha est une arme à feu, sectaire comme la mafia, mais j'fais pas le mafieux. J'essaye d'être moins superficiel, j'm'améliore, mais j'pars de loin. Les gens qui portent le plus de marques sont souvent ceux qui me marquent le moins. Je suis dans le rap jeu, même si le business est sombre. Je devrais sponsor Sniff et Wesson. Elle a kiffé le veston accordé à ma paire de JM Weston. Vite monte les vitres, augmente la clim. Tu sais comment marche la tech. 7-5-0-1-4. C'est putain de code j'applique. Vite monte les vitres, augmente la clim. Tu sais comment marche la tech. 7-5-0-1-4. On y va. C'est putain de code j'applique. J'instaure un régime trop militaire pour être payé comme un haut dignitaire. Ni croupier, va chercher ce que le monde te doit. Y'a aucune barrière contre toi. 200 visions, j'ai détecté l'indétectable. Les noirs à la télé sont pas respectés ou pas respectables. Certifié disque Roro, sans entrer dans la playlist de Lolo. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Qualité en guise de promo. Philippe Flingo, le feu Pinel. Enseignant au niveau OG maître. Mon négro protège ta peau, tu sais déjà. Il n'y aura jamais de lobby nègre. Jamais. Si je dis let's go, crie let's get it. RPTG, c'est la gimmick. Flow présidentiel, j'impose ma politique. Mes baskets sont cool, mais mon regard est strict. Super bolé, je m'accoupe. Je la fais tousser, elle a pas la toux. A pas de nuit, je suis dans le bloc ou les spots. Mon négro me pousse pas, j'emprunterai un club. Monte les vitres, augmente la clim. Tu sais comment marche la pique. 7-5-0-1-4. C'est putain de quoi j'applique. Vite monte les vitres, augmente la clim. Tu sais comment marche la pique. 7-5-0-1-4. C'est putain de quoi j'applique. Tu sais comment marche la pique.
Voilà, c'était Alpha One avec son titre APDL sur le 101.5 FM ou bien sur le site internet www.radio-g.fr. On va tout de suite passer au volet international avec Amaury et on va parler Super Bowl.
Exactement, on en parlait la semaine dernière et on a eu le droit à une démonstration des Eagles, ce qui a dû ravir Nelson, l'invité de la semaine dernière qui supporte Philadelphie. Donc victoire 40-22 des Eagles, qui empêche donc les Chiefs et Patrick Mahomes de réaliser le tripit. Cédric, Mathéo, Faustin, vous avez chacun pu voir un petit peu à votre façon le match. Qui est-ce que je lance en premier pour nous parler de cette rencontre? Mathéo?
Eh ben allons-y. Super. Allons-y. Cette rencontre, elle a été plutôt à sens unique, honnêtement, pour les Eagles. De toute façon, le score à la mi-temps parle pour le match, hein, tout simplement, puisqu'on avait ce score donc de 24-0 à la mi-temps, ce qui est beaucoup en football américain, donc l'équivalent de 3 touchdowns. Donc c'est assez impressionnant. C'était vraiment la récurrence dans cette première mi-temps. C'était vraiment l'excellente défense des Eagles qui ont réussi à contrer 3 ou 4 fois, même à intercepter 3 ou 4 fois Mahomes, qui n'est pas rien quand on connaît la qualité de Mahomes et les 4 bagues qu'il a autour des doigts entre guillemets. Donc voilà, c'était un match un peu à sens unique, un peu dommage, franchement, qu'on ne se le cache pas pour ce Super Bowl. Je sais que la mi-temps du Super Bowl cette année était assez hype en France aussi. Forcément, c'était Kendrick Lamar, c'est un artiste qui s'exporte très très bien. Donc on est plus ou moins tous restés jusqu'à la mi-temps. Et c'est vrai que ce match-là, surtout la première mi-temps a été encore une fois à sens unique, et du coup un peu moins intéressante que les dernières années, même si il y avait ce petit espoir d'envoler en deuxième mi-temps de la rencontre, puisque les Chiefs, sur les 6 derniers Super Bowls qu'ils ont joués, n'ont jamais mené à la mi-temps. Donc ça, c'était aussi une statistique intéressante à prendre en compte, mais voilà, il y avait jamais une différence de 24 points comme ça, ça n'existait pas. Donc finalement, ça ne l'a pas fait. 22-40 score final pour les Eagles, et la première victoire donc pour Jalen Hurts, le quarterback de Philadelphie.
Faustin, à peu près le même avis, un peu la même analyse de cette partie.
Ouais, ça, je m'y connais sûrement moins que Mathéo en football américain, mais du coup malheureusement, un match d'un sport que tu connais moins, quand c'est une défense qui l'emporte, c'est une bonne défense, tu t'ennuies beaucoup plus vite. Donc je pense que c'est un Super Bowl qui a un peu moins plu au grand public, et heureusement que le concert de la mi-temps était là, peut-être pour regarder certaines personnes éveillées, dont moi, sinon je serais sûrement allé me coucher avant. Mais ouais, c'était un match à sens unique, en tout cas la première mi-temps que j'ai pu voir, il y avait pas photo. J'ai vu les précédents Super Bowl, j'ai commencé, il me semble le premier que j'ai vu c'était celui de 2022, et ouais, ce que disaient les commentateurs aussi, que Patrick Mahomes, c'était peut-être son pire match de toute sa carrière, quoi. C'est dommage de le sortir maintenant, et c'est
au moins la première mi-temps, ouais. Première, où c'était, je crois qu'il est, il a dû finir moins de 50 yards à la passe, ce qui est vraiment terrible. Pour vous donner un ordre d'idée, il a fini à 250. Jalen Hurts, qui a été élu MVP de la finale, a fini à 220. Voilà, 50 yards à la passe à la mi-temps, enfin moins de 50 yards, c'est assez choquant pour un joueur du calibre de Mahomes.
Parce que finalement, on a une deuxième mi-temps, donc que beaucoup de personnes n'ont pas vu, parce que à la mi-temps le match était quasiment fait, mais une deuxième mi-temps qui a été plutôt prolifique, hein, parce que 16 points quand même marqués par les Chiefs, 22 donc pour les Chiefs, et voilà, exactement. Parfait. Donc une deuxième mi-temps où il y a quand même eu des points de marqués. C'est plutôt un relâchement pour vous de la défense, parce que le match était quasiment gagné. C'est plutôt Patrick Mahomes et son équipe qui se sont réveillés, Cédric?
C'est le scénario d'il y a 2 ans. Si tu prends le match il y a 2 ans, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment le jeu des Eagles, hein, qui est vraiment dans eux, d'aller chercher les points coûte que coûte. Déjà, ils gagnent le toss, ils prennent l'attaque. Enfin, c'est l'attaque en premier. Derrière, bah, les Chiefs, ils sont passés à travers, mais comme j'ai envie de dire, c'est nu régulier, hein, sur 3 Super Bowls, il y en a un à chaque fois où ils passent vraiment à côté.
Ça reste pas mal d'en gagner 2 sur 3.
Oui, oui, non, mais...
Même plus ça, c'est 5, non, c'est 4,
c'est 4 6. Sur 6 voilà. Sur les 7 dernières années.
Ouais. Après, c'est ce que disait Brady, hein, quand t'en perds un derrière, c'est toujours dur de t'en remettre. Il en a gagné 2 derrière, il en repère un, là. Donc,
à voir.
Il a le temps encore, il reste quand même assez jeune, on va dire, comparé à certains quarterbacks qui ont fini...
Il a déjà 25, enfin, il a que 25 ans, il a déjà 4
ans. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est, wow. Il a encore le temps de venir, et puis, c'est surtout, oui, le travail des Eagles pour enlever l'affront de, il y a deux ans, ça se joue sur une dernière attaque, je crois, des Eagles, où ils font un fumble, du coup, ils perdent la balle, et derrière, c'est la remontée fantastique, le touchdown et la victoire, mais, là, ouais, en ayant regardé les deux premiers tiers, j'étais là. Ça sent bon pour les Eagles. Et après, quand il y avait déjà 17-0, enfin, j'ai fait, ouais, bon. Ça sent un petit peu le truc à sens unique. Et puis, bah, ouais, non, alors moi, la mi-temps, vas-y, garçon, viens pas régler tes comptes tout le temps sur scène, quoi.
C'était sympa quand même.
Ouais, quand on
un peu le truc.
T'es au Super Bowl, enfin.
Mais il est pas avec ça non plus.
Ouais, tu regardes sa prestation quand tu l'analyses, c'est beaucoup d'attaques. Hein. Et puis j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Alors ça a été très bien filmé, très bien.
Enfin, ils savent faire les Américains.
Mais ouais,
ça,
là-dessus il y a rien à dire. Les enchaînements, voilà, de tableaux, rien à dire. Niveau musical,
après ça c'est aussi chacun, je pense c'est aussi un goût à la base.
Non, puis c'est aussi que le rap, et je parle en tant que grand auditeur de rap, j'adore vraiment, j'en ai beaucoup consommé, mais le rap au Super Bowl, c'est toujours un peu compliqué quand on n'invite pas justement des artistes comme il y a eu, je crois que c'était il y a 3 ans, avec Eminem, Dre et toute la troupe qui sont venus, et là pour le coup c'est des musiques qui dépassent simplement le cadre du rap. Kendrick, les musiques qui dépassent le cadre du rap sur son Super Bowl, il y en a deux, c'est Not Like Us et Humble, qui sont les deux gros sons, mais sinon en termes de rap pur c'est excellent. C'est juste que pour mettre l'ambiance comme ça dans un grand show à l'américaine, c'est assez compliqué, mais sinon la scénographie était très très belle, et la différence un peu que j'ai trouvé avec les précédents concerts du Super Bowl, c'est que c'était vraiment, y avait un objectif d'être filmé. D'habitude, on a vraiment ces grandes scènes un peu ouvertes au public quand même. On garde toujours cette base de, c'est un concert au milieu de la foule. Là, c'était un peu plus intimiste avec la caméra, ce qui est pas forcément négatif. Pour nous, on a l'impression d'être encore plus proche de ce concert-là, et que ça nous raconte encore plus une histoire. Mais c'est vrai que vu du stade, ça devait être un peu décevant. Ouais.
Alors, je sais pas. Apparemment, les captations de ce qu'on a, en fait, ne reflète pas l'ambiance du stade.
Par rapport à quoi?
Par rapport à l'ambiance qu'il y a dans le stade au moment de la...
Que les gens mettent ou que les
ouais,
gens...
Ouais, que les gens mettent...
Ah oui. Ouais. Bah là, on a eu juste, ouais, une différence sur le mot que tout le monde a entendu. Oui, là, pour le coup, je crois que c'était, que ça a été rajouté. Ouais, il me semble. Mais sinon, oui, on a vu tous les vidéos où, chantez pas beaucoup, mais parce que c'est compliqué aussi de chanter du rap comme ça, c'est assez dur.
Ça va vite.
Tout le monde n'est pas Kendrick Lamar.
C'est quand même le concert de la mi-temps le plus regardé de l'histoire du Super Bowl. Ça dépasse Michael Jackson.
Ouais, alors ça, après les stats, on en fait ce qu'on veut.
Mais par contre, elles sont purement américaines.
C'est ça, voilà. Faut pas oublier qu'à l'époque de Michael, t'avais pas Internet.
C'est vrai.
Tu reprends le même show avec Internet. Je pense que
je pense qu'on met pas Kendrick au niveau de Michael Jackson.
J'étais pas en train de dire ça.
Et puis
ne t'énerve pas, Cédric, t'inquiète pas.
on a eu quand même Serena Williams qui sait danser.
Cripwalk. On est tente.
Il y avait apparemment un message caché.
Non.
Saurez-vous le retrouver?
On a fait le tour sur le Super Bowl. Je pense on va pouvoir partir sur un autre sport de contact avec un ballon qu'on peut jouer à la main, au pied.
La pelote basque.
Et non, mais c'est un sport où on a perdu contre l'Angleterre, et perdre contre l'Angleterre, c'est dur. Perdre contre l'Angleterre au rugby,
toujours mal.
C'est encore plus dur. Mais perdre contre l'Angleterre à la dernière minute, rien que d'en parler, ça fait très mal. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé samedi soir. Tout avait pourtant plutôt bien commencé pour les Bleus, ou presque, avec une domination totale sur le 15 de la Rose. Des situations en pagaille, mais trop de fautes de main, trop d'imprécisions, et à la mi-temps, impossible de virer en tête malgré cette domination. En seconde période, les débats s'équilibrent. Puis à la 75e, l'éclair de Louis Baybarré, l'essai qu'on croit être celui de la délivrance, celui de la victoire. Mais voilà, le rugby est parfois impitoyable. 79e minute, l'Angleterre frappe une dernière fois et nous arrache ce crunch 26-25. Un scénario cruel, une défaite rageante. Il va maintenant falloir prouver qu'on est capable de rebondir. Est-ce que les gars, vous avez pu voir ce match? Non, Mathéo, Cédric,
je travaillais malheureusement. J'ai vu la fin dans la salle de pause.
Ah, t'as ça a pas été vu le meilleur difficile. Moment.
Non, malheureusement.
Et vous, les gars, vous avez pu quand même ou pas?
Non, j'ai parce que moi j'étais persuadé qu'il était en prime time.
L'estination, c'est à part le vendredi soir. Sinon, l'horaire du rugby, c'est toujours c'est l'après-midi.
Ouais, mais là, c'est fin.
Mais du coup, moi qui ai pu voir ce match vraiment, c'est vachement dommage cette première mi-temps où on a surdominé les Anglais, mais je crois qu'il y a quatre situations où on a la dernière passe, où on peut aller marquer l'essai. Et en fait, ballon qui glisse des mains. Deux fois pour Penaud, une fois pour Antoine Dupont. Et la dernière, je l'ai plus en tête. Mais donc, vraiment une domination, mais des erreurs qui font que on marque pas. Et derrière, les Anglais, ils ont su en profiter. Eux, ils marquent sur... ils ont eu deux occasions en première mi-temps, ils marquent sur l'une des deux, 7-7 à la mi-temps. Et puis après, quand les débats s'équilibrent, c'est un peu du 50-50. Et 50-50 donne une victoire d'un point pour les Anglais, ça fait toujours très très mal.
Après, les Anglais, sur leur premier match, ils étaient loin d'être à la ramasse.
Hein. Ah, ils ont juste craqué en fin de match, sur le premier match.
Ouais, mais tu les sentais déjà dedans.
L'Angleterre revient au meilleur niveau, clairement. Nous, on fait pas un mauvais match, mais il nous a manqué la petite chose.
Et puis, je pense que le jeu français et l'équipe française, en ce moment, depuis un moment, elle est décortiquée, mais dans tous les sens.
Complètement.
Et je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on a encore le temps vis-à-vis de la Coupe du Monde. Mais en tout cas, pour les Six Nations, il va falloir qu'on se réinvente à nouveau.
Mais là, on est revenu, on a eu une grande période où le rugby français a un petit peu copié, j'allais dire, le rugby anglais, a joué beaucoup au pied, etc. Là, c'était un match opposition de style total. Les Anglais qui tapaient énormément au pied, qui rendaient le ballon, les Français qui jouaient énormément à la main. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup joué à la main. Si on n'est pas précis dans ses passes, dans ses récupérations de balles, c'est plus compliqué. Si on l'est, tout va bien, tout allait bien jusqu'à la dernière passe. Donc voilà, une défaite très rageante pour les Bleus ce week-end. On va enchaîner avec la performance du week-end, même de la semaine, j'ai envie de dire. Vous l'avez peut-être vu passer, Mathieu Blanchard, l'Ultra Trailer, a bouclé la Yukon Arctic Ultra, une course de plus de 600 km à travers le grand froid canadien. 7 jours d'effort, 11 000 mètres de dénivelé positif et des températures extrêmes jusqu'à moins 50 degrés. Un défi hors norme où il a vécu peur, euphorie, douleur, selon ses mots, mais surtout un retour à l'essentiel, à l'instinct, il nous a dit après son arrivée. C'est l'un de ses plus grands accomplissements, une performance exceptionnelle pour un athlète hors du commun qui s'était déjà distingué sur l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Donc franchement, rien que ces chiffres, c'est moins 50 degrés, c'est 600 km, tout ça fait en 7 jours, c'est impressionnant.
Le tout sans assistance.
Oui, évidemment, même si il a failli abandonner au milieu, j'ai vu en temps de pneumonie ou quelque chose comme ça. Mais il est allé
au-delà. Tout m'étonne, à moins 50.
Au-delà de la douleur, et il a réussi l'un de ses plus grands exploits.
Surhumain.
Surhumain, t'as tout dit. En parlant de surhumain, c'était un trail de surhumain qui avait lieu en NBA la semaine dernière. Faustin, je vais te donner trois infos, tu vas me dire sur quoi tu veux rebondir en lien un peu avec ce trade. On a Anthony Davis qui a fait des débuts impressionnants sous ses nouvelles couleurs à Dallas avant de se blesser en fin de troisième quart-temps. Verdict, environ un mois d'absence pour l'ancien Lakers. De son côté, Luka Doncic, lui, a joué ses premières minutes avec Los Angeles cette nuit. Un match discret, mais après un retour de blessure, c'était un petit peu logique. Et enfin, le coup dur pour les Lakers, c'est Mark Williams qui était censé remplacer Anthony Davis, qui a été trade contre Delton Neck, j'arrive jamais très bien à le prononcer, mais qui finalement ne rejoindra pas la franchise parce que le trade a été annulé à cause d'une visite médicale non validée. Et donc les Lakers se retrouvent sans véritable intérieur pour cette fin de saison. Ouais. Sur quoi t'as envie de rebondir là?
Je vais sur le match de Luka Doncic, je pense que c'est le plus récent en plus. Oui, c'est un retour, c'est une adaptation à une nouvelle équipe. Il a des très mauvais pourcentages au shoot sur ce match. Mais après, il joue que 23 minutes. Il délivre quand même des bonnes passes. On a, je pense, une image qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux quand il a son grand sourire, quand il voit LeBron James partir en contre-attaque et qui lui envoie une magnifique passe pour qu'il finisse. Et après, moi aussi, un autre truc marquant que j'ai vu sur ce match, c'est la présence de Dirk Nowitzki. à la Crypto.com Arena à Los Angeles. Dirk Nowitzki, c'est une légende des Dallas Mavericks, là où jouait avant Luka Doncic, et qui ne donnait justement, il donnait plus d'informations à son club de Dallas, et du coup a fait le déplacement en guise de protestation, je pense un peu envers ce move qu'a fait Dallas de trade son jeune joueur. Et pareil, bah, les supporters de Dallas n'étaient pas très contents. On a vu avec où il demande tout simplement de virer le general manager parce que pour ce trade malheureux.
Le problème, c'est que le general manager fait ce trade, mais derrière on a le propriétaire qui a fait une sortie médiatique en disant que Luka Doncic n'était pas un vainqueur. Ouais, donc bon. Très très compliqué d'entendre cette phrase quand on sait.
C'est sûrement passé des choses en interne avec Luka Doncic, discussions, etc.
Luka Doncic pas un vainqueur quand on voit la carrière de Luka Doncic, que ce soit en Europe à 17 ans avec le Real Madrid, où il est élu MVP d'Euroleague, et derrière il amène là où il a amené la franchise. Ouais. C'est très compliqué à entendre quand même.
Ouais, c'est vrai que c'est un move étrange.
C'est le trash étrange. Talk, spécialité des États-Unis.
C'est même pas du trash talk là, c'est... Parce que t'as aucun intérêt, je pense, à trash talk qu'un mec qui a fait autant ton histoire dans les 5 dernières années depuis ta draft. Le trash talk.
Qui a relevé une franchise qui était en déclin de l'après Dirk, hein, clairement. Donc, donc voilà. Toujours assez incompréhensible. Maintenant, va falloir s'y faire. On a vu Anthony Davis sous le maillot. Malheureusement, on le reverra pas avant un mois, à peu près, trois semaines, un mois.
On a l'habitude.
Voilà. Davis. Mais ça faisait un an qu'il se blessait plus. Premier match avec Dallas, blessure. Et Luka Doncic qu'on va revoir donc dans les jours qui vont venir et dans les semaines à venir avec le maillot des Lakers. On va partir en handball, on n'en parle pas souvent dans la chronique internationale, mais une semaine après la fin du mondial, la Coupe de France revenait entre Paris et Nantes et un match fou, 35-35 à la fin du temps réglementaire et une séance de tir au but où les Parisiens s'imposent 5-4 et obtiennent leur place pour le dernier carré. Donc ils sont plus que 4, hein, Paris, Montpellier, Chambéry et Limoges pour aller décrocher ce trophée détenu par Nantes depuis 2 saisons. Donc dommage pour les Nantais qui auraient pu viser le 3e de suite en éliminant Paris. C'était presque le plus dur de fait, même s'il restait Montpellier notamment en gros. Mais très dommage cette défaite au pénalty en terre parisienne en plus. En tennis, on a une scène terrible. Je ne sais pas si vous avez vu l'image. En finale du challenge de Lille, Lucas Pouille, blessé en plein match, a quitté le court en fauteuil roulant. Le visage caché sous une serviette. Et le verdict est cruel. Rupture du tendon d'Achille pour Lucas Pouille. À chaud, le Français évoquait même un possible dernier match en carrière. Mais quelques heures plus tard, il assurait vouloir tout faire pour revenir. En tout cas, on lui souhaite complètement. Et donc c'est un petit peu la fin de cette chronique internationale pour moi. Mathéo, tu avais du football, je crois, à nous parler, notamment de la Ligue 1.
Oui, c'est ça, exactement. Week-end. Je vais revenir un peu sur le week-end qui s'est passé en Ligue 1. On n'a plus beaucoup de temps, donc je vais tâcher de faire vite et je vais pas pouvoir parler des autres matchs dans les autres championnats, notamment les 5 majeurs. On va en garder qu'un. Avec donc vendredi le début donc de la première, enfin de cette journée de Ligue 1, le match à la Beaujoire, victoire de Brest sur Nantes. Victoire de Paris un peu plus tard, 4-1 face à Monaco dans un match qui se voulait potentiellement plus serré après le magnifique coup franc de Vitinha et l'égalisation de Zakaria à la 16e minute. Donc finalement score de 4-1. Samedi, Nice est allé s'imposer à Lens. Grosse surprise donc, puisque Lille a perdu au Havre et puis Saint-Etienne a également perdu à domicile face à Rennes. Dimanche, match victoire impérative pour Lyon, 4-0 pour recoller un petit peu à l'Europe avec cette course relancée par Lille et par la défaite de Lens, victoire 4-0 donc face à Reims avec notamment une fin de match assez impressionnante. Match nul également entre Auxerre et Toulouse, 2-2, victoire aussi logique de Strasbourg face à Montpellier, même si là aussi on avait une rencontre qui aurait pu être plus débridée, notamment parce que Andy Delors a beaucoup loupé en début de rencontre. Et puis pour finir, le SCO a perdu face à Marseille à domicile. En fin de semaine, j'allais dire la semaine prochaine, mais non, on est déjà au milieu de cette dernière. Brest reçoit Auxerre, Marseille reçoit Saint-Etienne, Monaco reçoit Nantes, Toulouse reçoit le Paris Saint-Germain, Lyon se déplace à Montpellier, Nice se déplace au Havre, Lens reçoit Strasbourg, Reims reçoit Angers, et enfin, en prime time, Rennes reçoit Lille dimanche à 20h45. Voilà.
Une belle journée, on espère évidemment une victoire pour le SCO contre Strasbourg.
Ce sera un avant-goût.
Voilà, contre Strasbourg, qui le SCO a déjà gagné récemment. Donc c'est tout à fait un match prenable. On va se laisser là pour cette émission. Voilà, 20h59, on rend à l'heure et on vous laisse écouter un autre regard juste après sur les antennes de Radio G.